2017, nous savons que 500 ans après, on parle encore du protestantisme. Et le fait est que près de 2000 ans après, on parle encore du christianisme. Et on en parle dans des termes qui n'ont rien de compte-rendu de fouilles archéologiques, qui établiraient le constat de ce qui fut, mais qui n'est plus. Et pourtant, ces histoires du protestantisme et du christianisme sont des histoires particulièrement fragiles et surtout menacées. Cette parabole des vignerons homicides en est finalement la simple et triste illustration. Avant même qu'on se mette à parler du christianisme, les relations entre Dieu et l'humanité ont été marquées par une forme de « je t'aime, moi non plus ». Le Premier Testament est constellé de ces prises de pouvoir violentes destinées à servir des intérêts personnels, et certainement pas la plus grande gloire de Dieu, pour reprendre l'expression de Johann Sebastian Bach. Le Premier Testament parle de faux bergers qui entraînent le peuple hébreu sur des chemins qui ne sont pas les chemins de l'Éternel. Et l'histoire se poursuivra de la même manière avec Jésus, qui est bien entendu au cœur de cette parabole, où la jubilation de cupidité et de violence trouve son point culminant quelques versets plus tard dans la crucifixion de Jésus. Une crucifixion qui, nous l'entendons dans cette parabole, ne tient pas à la volonté de Dieu, mais qui est la conséquence de la volonté de quelques-uns de vouloir garder le pouvoir qui leur a été confié. Martin Luther n'a pas connu le même sort que Jésus, quoiqu'il s'en ait fallu de peu parfois, mais il ne s'est pas fait oxyre. Tous ceux qui ont fait œuvre d'un esprit de réforme dans l'histoire du christianisme ont eu mal à partir avec ceux, rarement celles, qui avaient mis la main sur l'institution après qu'on leur avait confié la responsabilité des armes. Chasse aux sorcières, inquisition, traque des hérétiques, persécution, dragonnade, j'en passe et l'équipe. Les épisodes ne manquent pas dans cette histoire conflictuelle entre Dieu et les croyants d'une part et ceux qui voulaient être les chefs des croyants d'autre part. Manifestement, la spiritualité n'a jamais fait bon ménage avec le pouvoir. Cela est vrai également quand les croyants se sont élevés contre des situations jugées inhumaines. On peut penser bien sûr au pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui mourra en camp de concentration en avril 1945. On peut penser aussi au pasteur Martin Luther King, qui sera assassiné, l'un et l'autre, parce qu'ils ont essayé de faire valoir les droits de Dieu sur la prétention de quelques-uns à déterminer le destin de tous. Martin Luther, donc, n'a pas été assassiné. Les plus facétieux diront qu'il n'est donc pas le fils du maître. Mais, évidemment, la question n'est pas là. La question est de savoir si ses idées, sa réforme, ses intuitions ne sont pas mortes, elles, ne sont pas enterrées ou tout juste dans le souvenir de nos mémoires parpaillotes, désireuses cette année, évidemment, de trouver un moyen de faire parler de nous. Alors, pour savoir si les idées de Martin Luther, si les idées de la réforme ont encore une actualité, je laisserai le soin au professeur Michel Bertrand de nous entretenir à ce sujet dans quelques instants. Toutefois, il me semble utile que nous nous interrogions sur ce qui constitue pour nous, et à titre personnel, la fameuse pierre d'angle dont il est question dans ce texte. Quelle est donc la pierre sur laquelle nous, personnellement, nous aimerions fonder nos convictions? Sur quoi nous fondons-nous lorsque nous devons prendre des décisions, lorsque nous devons faire des choix de vie, lorsque nous pensons à l'éthique, à notre manière d'être avec les autres. Il n'est pas impossible que la pierre angulaire sur laquelle nous aurions intérêt à bâtir notre vie ne soit pas une pierre très populaire. Il se pourrait même que ce soit une pierre rejetée par les bâtisseurs officiels. Mais qu'importe, à vrai dire. Qu'importe si ce que nous retenons pour essentiel n'est pas à la mode. Qu'importe si les signes des temps peuvent sembler contraires en apparence. Votre foi devrait-elle tenir compte des sondages, des indices de popularité? Qu'importe si celui que nous reconnaissons comme Christ n'a pas eu une majorité pour lui au moment de sa prédication et s'il est finalement sur une croix. Qu'importe si nombre de ses apôtres ont été mis à l'index, voire éliminés. Cela ne dit rien. Cela ne dit rien de la valeur des personnes ni des idées. La qualité d'une personne, la qualité d'une conviction ne se mesure pas à son asservissement au plus fort, mais bien au contraire, à sa liberté à l'égard du pouvoir et à sa capacité à promouvoir l'état de droit en toutes circonstances. Au fond, cette parabole montre un Dieu qui ne se compromet pas avec ce qui est injuste. C'est un Dieu qui ne transige pas avec l'iniquité. C'est un Dieu qui insiste. Il insiste sur ce qui semble juste à ses yeux, pour utiliser un anthropomorphisme. C'est un Dieu qui ne s'accommode pas avec ce qui est violent. C'est un Dieu qui ne se résout pas à céder face à la pression des iniques, ou en certaines circonstances, la pression des cyniques. Un Dieu qui ne transige pas. Et du coup, les croyants qui eux-mêmes ne transigent pas. Cela n'est pas sans poser problème, bien évidemment. Car tout cela pourrait être aussi une sorte de discours de radicalisation. Et peut-être, dans une certaine mesure, nous pourrions prendre ce texte comme une justification pour notre propre radicalisation, et dans une certaine mesure, le droit d'être kamikaze, le droit de réclamer la mort comme témoignage suprême. Ce pourrait être une forme d'intransigeance aussi violente que la violence à laquelle ce texte entend s'opposer. Une violence capable de se venger de ceux qui ne lui ont pas accordé sa confiance, voire sa soumission. La pierre d'angle, au lieu d'être le fondement de nos convictions, le fondement de notre vie, pourrait être alors une arme à double tranchant qui vient punir ceux qui n'ont pas adoré. Et dans une certaine mesure, ce texte pourrait légitimer une sorte de violence, une violence subie au nom même du Christ. Mais nous pouvons entendre aussi cette parabole de la justice de Dieu avec la théologie du process, qui indique que Dieu est ce qui offre à l'homme des occasions de rédemption, des occasions de faire de sa vie un royaume divin. Oui, un Dieu qui insiste, mais pas un Dieu qui insiste par la violence, ou pas un Dieu qui insiste de manière suicidaire, mais un Dieu qui insiste pour faire valoir le droit. Et à chaque fois que nous refusons ces occasions, à chaque fois que nous négligeons ces propositions qui nous sont faites pour rendre notre vie plus juste, plus humaine, alors nous nous infligeons notre propre condamnation, en restant sous le régime de la violence, voire de la sauvagerie. Et du coup, la pierre d'angle peut effectivement être une pierre sous laquelle nous sommes écrasés, si nous ne faisons pas de cette pierre l'angle, justement, mais si nous la laissons tomber, si nous n'en faisons rien, si nous ne la saisissons pas pour en faire notre fondement, alors effectivement, elle nous écrase de toute sa force de proposition. Constatons que Jésus, pour sa part, n'a pas manqué les rendez-vous de l'humanité. Il n'a pas fui ses responsabilités, de même qu'il n'a pas fui les situations où il fallait avoir une spiritualité puissante pour ne pas céder aux sirènes du pouvoir ou de la violence. Alors peut-être cette semaine de Pâques est-elle aussi une manière d'honorer cet art de vivre qui consiste à accueillir dès aujourd'hui les occasions divines pour rendre notre monde plus humain, à la manière de Christ Jésus, à la manière de celles et ceux qui lui ont succédé, parmi lesquels Martin Luther et bien d'autres témoins de l'Évangile, témoins de cet Évangile qui nous aide à bâtir un monde un peu plus vivable. Amen.